Alors, voilà, donc je vais maintenant être en compagnie donc, de Jimmy Simard qui est au téléphone avec moi. Est-ce que, M. Simard, vous m'entendez bien?
Oui.
Oui, bon, parfait. Alors, M. Simard, donc, vous êtes intervenant à l'organisme Emphase. Donc, comme j'expliquais aux gens, donc vous intervenez auprès des hommes qui ont été agressés sexuellement dans l'enfance ou dans l'adolescence. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner, tracer un petit bref historique de l'organisme et un petit peu aussi la mission là, d'Emphase?
Oui, bien, en fait, moi, présentement, je suis intervenant, mais je suis aussi coordonnateur des services à Emphase.
D'accord.
En fait, Emphase existe depuis 2014, juin 2014. Et puis, en fait, la mission de l'organisme, c'est vraiment d'aider à améliorer, en fait, le bien-être personnel et social des hommes qui ont été agressés sexuellement. Puis, on aide particulièrement, oui, les gens, les gars qui ont été agressés lorsqu'ils étaient enfants, adolescents aussi. Mais il y en a quelques-uns aussi qui ont été agressés à l'âge adulte, puis on les aide aussi. Là. Donc,
okay.
Peu importe le moment où ils ont été agressés, que ça fasse pas si longtemps que ça ou que ça fasse des années,
okay.
On va les aider. Là.
Ah, d'accord, parfait. Et donc, vous êtes situé dans la région de Trois-Rivières et vous avez des groupes là, à différents endroits, je crois, en Mauricie, là.
Ben, en fait, nous, on dessert vraiment la grande région Mauricie-Centre du Québec. Donc, on peut autant faire des groupes parce que essentiellement nos services, c'est des services de groupes d'entraide.
D'accord.
On peut faire des groupes autant dans le secteur de Latuc que dans le secteur de Trois-Rivières et les environs, ou encore même Drummondville, Victoriaville, etc. Là.
Ah oui,
donc,
oui.
C'est vraiment un très vaste territoire. C'est sûr que notre siège social est à Trois-Rivières. Puis, en ce moment, la majorité des groupes qu'on a fait jusqu'à maintenant, ils ont été faits à Trois-Rivières. On en a un jusqu'à maintenant qui a été fait à Shawinigan.
D'accord.
Mm-hmm. Et c'est sûr qu'on vise vraiment à offrir des services là, bientôt. Aux gens qui sont un peu plus dans les secteurs comme Latuc, Victoriaville, etc.
Là. D'accord. En fait, est-ce que c'est parce que vous êtes le seul organisme là, qui offre ce type de service-là qui est présent en Mauricie en ce moment?
Ben, en fait, il y a d'autres services qui existent, qui offrent un peu là, des services pour les hommes qui ont été agressés sexuellement, mais en même temps, c'est pas nécessairement leur
mission première.
Principale, Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement la mission première. Comme par exemple, à Drummondville, on sait qu'il y a la ressource pour hommes de Drummond qui existe, qui offre certains services aux hommes qui ont été agressés sexuellement, mais c'est un organisme qui est un peu plus généraliste, qui va offrir différents services aux hommes en général,
d'accord,
donc peu importe le besoin.
D'accord. Donc, vous spécialisez
vraiment...
OK, d'accord.
Oui.
Et puis, donc, vous, comment ça fonctionne, justement? Là? Donc, vous dites que c'est sous forme de groupe, mais c'est des groupes de combien d'hommes? C'est quoi les fréquences de rencontres, le nombre de rencontres? Comment ça se passe un peu?
OK. Ben, en fait, les groupes, c'est des groupes fermés. Donc, l'homme qui s'inscrit à un groupe va être avec les mêmes participants tout le long du groupe. Puis c'est sur 10 semaines que ça se passe.
D'accord.
10 rencontres qui peuvent être des rencontres soit de jour ou de soir, mais qui se passent un jour de semaine, là, soit du lundi au vendredi. Puis de semaine en semaine, en fait, l'horaire reste le même.
D'accord.
Pour éviter justement que on perd peut-être des hommes parce qu'ils ont d'autres activités à d'autres moments.
Est-ce que l'horaire est décidé par le groupe ou c'est il y a un horaire qui est proposé puis les gens vont à cet horaire-là?
En fait, actuellement, on tient le plus compte possible de la disponibilité des hommes et de leurs préférences aussi. Mm-hmm. Comme par exemple, quand on fait des évaluations, parce qu'il faut d'abord que l'homme soit évalué en individuel avec nous.
D'accord.
Mm-hmm. Et lors de l'évaluation, en fait, on vérifie c'est quoi les disponibilités qu'il a, c'est quoi ses préférences aussi, parce que il peut y avoir des hommes, par exemple, qui ont de la médication à prendre le soir et que le soir, justement, ça ne soit pas idéal pour faire un groupe parce qu'ils se sentent plus ou moins présents pour faire les rencontres.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc, dans ce temps-là, ben, on va en tenir compte et puis on va faire ça plus en après-midi, par exemple, où l'homme est un peu plus en forme.
Ben oui. Donc, les
travaillent de jour, ben on va faire des groupes un peu plus de soir.
Là. OK. Donc, vous adaptez selon les besoins, bien sûr. C'est sûr, du groupe en tant que tel.
Oui.
Et si, donc, c'est pendant, si j'ai bien compris, 10 semaines, les rencontres se déroulent à toutes les semaines,
oui,
pendant une période de 10 semaines?
Oui.
OK. Et j'ai cru voir qu'il y avait une phase 2. Soit est-ce que c'est ça se passe toujours, la phase 2, ou ça, c'est au choix de la personne? Ça dépend où elle est rendue dans son processus?
En fait, c'est sûr que le premier groupe dans lequel on va l'accueillir, ça va être le groupe phase 1, ou en phase 1, en fait, qui va avoir des thèmes préétablis.
Okay.
En fait, pendant les 10 semaines, il va avoir à peu près un thème par semaine qui va lui être proposé pour parler un peu des réalités qui peuvent être vécues en lien avec les agressions sexuelles.
OK, OK.
Donc, on va démystifier un peu c'est quoi une agression sexuelle, c'est quoi le type de conséquences que ça peut amener dans la vie d'un homme,
mm-hmm,
c'est quoi les difficultés que l'homme va avoir à transiger avec cette réalité-là qui a subi.
Mm-hmm.
Versus ce qu'on peut entendre dans la population en général en lien avec bon, un homme c'est fort, etc.
Mm-hmm.
Donc on va un peu démystifier tout ça et on va ramener aussi beaucoup à ben, s'il a été agressé à l'enfance, ben, il y avait peut-être un peu moins de possibilités de se défendre par rapport à un adulte ou encore un adolescent qui était un peu plus vieux que lui.
Mm-hmm.
Donc il y a tout ça qu'on essaye d'atténuer un peu là, de lui faire voir que la responsabilité qu'il peut avoir en tant qu'enfant est loin d'être une responsabilité. Ben, il n'a pas pu faire rien,
mm-hmm,
il a pu faire qu'il a été agressé. Là.
Ben oui, c'est ça.
Donc,
remettre la responsabilité à l'extérieur de soi. Ok. Mm-hmm. Est-ce que
oui, remettre la responsabilité à l'agresseur qui a posé, mm-hmm, le geste et non lui-même qui aurait pu subir l'agression. Là.
C'est ça, dire que j'aurais pu me défendre ou j'aurais pu faire ci, un peu faire ça, effectivement. C'est une situation souvent que je crois que les gens figent puis ils savent pas trop comment agir non plus quand ça arrive. Là.
En plus, ben c'est intéressant que vous le mentionniez parce que 80% des gens vont avoir tendance à figer dans une situation qui n'est pas habituelle.
Mm-hmm.
Donc, c'est très fréquent qu'un homme, un adolescent, un enfant, un jeune garçon, en fait, va figer alors qu'il est agressé sexuellement.
Mm-hmm.
Parce que ça fait partie des réponses que 80% des gens ont.
Mm-hmm.
Face à une agression ou quelque chose qui n'est pas habituel.
Ben oui. Puis à un moment donné aussi, j'avais entendu là, que ça peut même que le souvenir s'efface complètement après que même à rendu adulte, ça peut prendre quelques années. Il peut y avoir un événement qui peut être déclencheur, qui fait tout à coup qu'il se souvienne de choses qu'il ne croyait pas avoir vécu, là, mais qu'il a vécu effectivement là, de l'abus dans l'enfance. Là.
Oui, en fait, c'est pas tout le monde qui a ce type de blocage-là, mais c'est sûr qu'un des mécanismes du cerveau, c'est de vraiment, ça peut être d'oublier un événement qui a été traumatisant,
mm-hmm,
parce que il n'y a pas nécessairement les outils au moment où ça se passe pour gérer l'événement.
Okay.
Donc, ça se peut effectivement qu'un homme ait vécu une agression dans l'enfance ou même à l'adolescence et qui n'ait aucun souvenir de cette agression-là avant qu'il y ait peut-être quelque chose qui vienne réveiller sa mémoire puis que là, il ne sait plus trop quoi faire avec ça. Là.
OK. J'imagine que ça doit être un choc. Un homme qui se retrouve devant ça, il doit se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon imagination qui me joue des tours ou ces choses-là? Hein?
Oui. Mais c'est sûr que c'est des images qui sont souvent très envahissantes, qui vont revenir. Des impressions très envahissantes aussi, parce que c'est pas uniquement en termes d'image. Il peut y avoir des odeurs que l'homme va réavoir alors qu'il n'y a pas aucune odeur similaire là, dans son environnement.
Okay.
Il peut y avoir des sensations d'être touché à certains endroits alors qu'il n'y a pas personne qui le touche. Là. Donc, les sensations qu'il peut vivre en lien avec des souvenirs de l'agression peuvent être assez difficiles des fois à vivre. Là,
Oui. Justement, vu qu'on en touche un peu ce sujet-là, que ce soit conscient ou non conscient, c'est quoi un peu les conséquences là, sur la vie d'un homme quand il a été agressé, là, quand il est soit même adulte? Là, ce qui est, j'imagine qu'il y a des conséquences là, au niveau psychologique et peut-être même physique.
Oui, en fait, y a certaines conséquences même qu'on va voir, puis que souvent l'homme va aller consulter d'abord pour ces conséquences-là. Comme par exemple, il y a beaucoup d'hommes, d'adolescents, qui vont se mettre à consommer de façon importante, à développer certaines dépendances, parce que justement, ces dépendances-là leur permettent dans un premier temps, de diminuer un peu le stress qu'ils ont pu vivre ou encore qu'ils peuvent vivre en lien avec l'agression ou le souvenir de l'agression. Donc ça, c'est souvent un motif de consultation chez les hommes. Il peut y avoir aussi la dépression, il peut y avoir des idées suicidaires, des idées homicidaires aussi. Souvent, il y a des hommes qui vont être agressifs, qui vont se sentir vraiment en colère contre la situation, puis aussi qui vont vouloir du mal à leur agresseur. C'est sûr que s'ils agissent en ce sens-là, ben ils vont en vivre encore plus d'autres conséquences parce que ils peuvent être ça peut les mener à la prison justement ou des choses comme ça là.
OK. Effectivement, d'avoir une colère quasiment comme presque contre soi-même, j'imagine même, dire on est tellement en colère contre soi que cette colère-là s'exprime à l'extérieur autour dans notre entourage.
Oui, puis il peut y avoir une colère aussi envers la société, dans le sens où ils peuvent vivre ça comme une injustice, puis comme une certaine réalité où il n'y a pas personne de leur entourage qui les a aidés, qui les a soutenus, qui les a protégés. Donc, ils peuvent aussi agir de façon délinquante, comme par exemple abîmer des biens publics, parce que justement, c'est une façon d'extérioriser un peu la colère qu'ils ont. Puis aussi le sentiment d'injustice en se faisant une sorte de justice soi-même. Là.
OK. Donc, c'est effectivement des signes parfois qui cachent autre chose, là, des fois des traumatismes plus importants qu'il faut peut-être prendre le temps de s'arrêter, j'imagine. Des fois, vous avez peut-être des références, j'imagine, justement, d'extérieur, de d'autres organismes qui, après avoir traité, mettons, de dépression, ils s'en vont vers chez vous pour faire un processus aussi de guérison. Là.
Oui, bien, en fait, il y a plusieurs hommes qui ont été dirigés vers chez nous via le CIUS, entre autres. Donc, soit qui ont passé par leur médecin de famille ou encore un médecin de l'urgence qui leur a parlé de nos services ou encore d'un travailleur social, une travailleuse sociale, un psychologue qui voyait, qui les orientait vers nous. On a aussi des références de d'autres organismes communautaires, comme par exemple le CALAX, qui eux autres vont travailler davantage avec les femmes et les jeunes filles. Donc, quand de temps en temps, il y a des hommes qui appellent chez eux, ben ils nous les envoient tout simplement. Là.
OK. Justement, j'imagine aussi que vous devez entendre à l'occasion que les hommes n'ont pas été crus, même quand ils en ont parlé autour d'eux. Il y a d'avoir cet aspect-là aussi qui est important là, dans leur processus.
Oui, bien souvent, on a l'image qu'un homme ne peut pas être agressé, que c'est plutôt l'inverse, que c'est comme un agresseur potentiel. Mm-hmm. Sauf que c'est pas la réalité. C'est que on parle dans la littérature, dans les études, dans différentes études, qu'il y aurait à peu près un homme sur 10 à un homme sur 6 qui aurait été agressé sexuellement une fois dans sa vie. Là.
OK. Mm-hmm.
Donc, ça représente quand même une grosse population. Là, juste pour donner une idée, si on fait un calcul rapide, là, ici au Québec, là, ça représenterait 400 000 à 600 000 hommes environ.
Ah, oui, oui.
Qui auraient été agressés sexuellement. Là,
c'est ça,
effectivement. Au moins une fois là, dans leur vie.
Eh oui, oui, sûrement. Puis c'est justement encore plus difficile, j'imagine, au niveau quand ils ressentent de la honte par rapport à tout ça, de faire la démarche pour se faire accompagner là-dedans aussi. Là.
Oui.
Mm-hmm. Je voyais que vous avez également un autre type d'activité qui s'appelle les cafés rencontres. Ça, est-ce que c'est destiné plus aux gens qui ont déjà fait un groupe d'entraide d'abord? Qu'est-ce que c'est comme activité?
Oui, en fait, les cafés rencontres sont pour les hommes qui ont complété les 10 rencontres du groupe en phase 1.
Okay.
En fait, c'est pas tout à fait le même fonctionnement qu'en phase 1 parce que avec les cafés rencontres, on va totalement ailleurs. On va essayer de s'éloigner le plus possible du vécu traumatique pour focusser l'attention un peu plus sur qu'est-ce qui est bon dans la vie, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est agréable dans la vie, comment est-ce qu'on peut reprendre sa vie et y trouver du plaisir malgré le fait qu'on a pu être agressé. Là.
OK.
Donc, on focus un peu plus là-dessus et sur la socialisation parce que souvent, dans les conséquences que les hommes peuvent vivre quand ils ont été agressés sexuellement, ils peuvent vivre beaucoup d'isolement.
Okay.
Donc, de ne pas avoir vraiment de réseau social autour d'eux.
Ouais.
Ce qui fait que quand ils ont participé à un premier groupe, qu'ils ont vu qu'ils pouvaient faire confiance à un certain nombre de personnes qu'ils ne connaissaient pas au départ, ben là, ils peuvent, après ça, dire, on va aller un peu plus loin, on va participer à des cafés-rencontres qui restent quand même dans un milieu sécuritaire avec mm-hmm. des gens qui ont vécu des choses similaires et on va partager plus au niveau de qu'est-ce qui est agréable dans la vie et tout ça.
Ah, OK. Donc, un côté plus positif, là, effectivement.
Ouais.
D'accord. Merci, M. Simard. En tout cas, peut-être justement nous dire vos coordonnées, de quelle façon, que s'il y a des hommes qui se reconnaissent, de quelle façon ils procèdent là, pour vous contacter.
Oui, en fait, pour nous contacter, vous pouvez, si vous êtes dans la région de Trois-Rivières, vous pouvez nous appeler au 1-819-519-4273 ou encore si vous êtes ailleurs sur le territoire Mauricie-Centre-du-Québec, vous pouvez nous appeler au 1-855 et ça c'est sans frais.
Okay.
519-4273.
Parfait. Et en tout cas, sinon aussi, si les gens veulent voir un petit peu aussi votre site, vous avez un site internet et une page Facebook aussi qui sont disponibles là, pour les gens qui voudront en savoir plus là, avant
oui.
de faire la démarche de téléphoner.
Oui.
Parfait. Ben merci beaucoup, M. Simard, et on souhaite le meilleur là, pour votre organisme et pour tous les hommes en tout cas qui font la démarche pour cette guérison-là. Merci de votre
merci à vous.